11. Lorsque la tombe fut remplie et les pierres disposées dessus, Roland te retourna à la route et inspecta les traces des divers véhicules, afin de voir ce qu'elles racontaient, et tout simplement parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Lorsqu'il eut fini cette tâche insignifiante, il s'assit sur un tronc renversé. Othé était resté près de la tombe, et Roland se dit qu'il élirait peut-être domicile là. Il appellerait le bafouilleux au moment du retour de Madame Tassenbaum, mais il savait qu'Othé ne viendrait peut-être pas. Si tel était le cas, cela signifierait qu'Othé avait décidé de rejoindre son ami dans la clairière. Le bafouilleux allait simplement monter la garde auprès de la tombe de Jack jusqu'à mourir de faim, ou être tué par un prédateur quelconque. Cette idée ne faisait qu'accroître le chagrin de Roland, mais la décision appartenait à Othé. 10 minutes plus tard, le bafouilleux sortit tout seul du bois et vint s'asseoir près de la botte gauche de Roland. « Bon garçon, » dit Roland en caressant la tête du bafouilleux. Othé avait décidé de vivre. C'était une petite chose, mais une bonne chose. 10 minutes plus tard, une voiture rouge sombre se rangea, presque sans aucun bruit approximativement, à l'endroit où King s'était fait renverser et Jack tué. Elle s'immobilisa. Roland ouvrit la portière côté passager et monta, toujours en grimaçant pour une douleur qui avait disparu. Othé sauta entre ses pieds sans qu'on lui ait rien demandé, se mit en boule la truffe contre le flanc et parut s'endormir.
« Vous avez pu vous occuper de votre garçon ?»
demanda Madame Tassenbaum en démarrant.
« Oui, grand merci, Sai. »«
J'imagine que je ne pourrai pas mettre une marque particulière, » dit-elle. « Mais plus tard, je pourrai planter quelque chose. Vous avez une idée de ce qui lui aurait plu, d'après vous ?»
Roland leva les yeux et, pour la première fois depuis la mort de Jack, il sourit.
« Oui. » Une rose.
12. Ils roulèrent pendant environ 20 minutes en silence. Elle s'arrêta dans une petite boutique au bord de la route au-delà de la limite de Bridgestone et elle y prit de l'essence dans une pompe. Mobile, une marque que Roland avait déjà croisée au cours de ses vagabondages. Lorsqu'elle alla payer, il leva les yeux vers Los Angeles, qui traversait le ciel de leur course nette et précise. Le sentier du rayon est déjà plus fort, à moins que ce ne fût que le fruit de son imagination. Mais ce n'avait pas grande importance. Si le rayon n'était pas plus fort maintenant, il le serait bientôt. Ils avaient réussi à le sauver, mais Roland n'en ressentait aucune joie. Quand Madame Tassenbaum ressortit, elle avait à la main un débardeur avec l'image d'un chariot Buca, un vrai chariot Buca, surmonté de mots écrits en arc de cercle. Il reconnut « maison », mais rien d'autre. Il demanda ce que disaient les mots.
« Journée de la maison de retraite de Bridgestone, du 27 au 30 juillet 1999 »,
lut-elle.
« Mais peu importe ce que ça dit du moment que ça vous recouvre le torse. Tôt ou tard, il faudra qu'on s'arrête, et on a un dicton dans le coin. Pas de chemise, pas de chaussures, pas de service. Vos bottes ont l'air éculées et fichues, mais j'imagine qu'elles passeront la porte à peu près partout. Mais sans le haut, pas question, Gaston. Je vous trouverai une vraie chemise plus tard. » Une avec un col et un pantalon décent aussi. Ce jean est tellement sale que si vous le retiriez, il tiendrait debout tout seul. »
Elle se lança dans un débat intérieur bref mais intense, puis décida de plonger.
« Et puis vous avez environ 2 milliards de cicatrices, et je ne parle que de la partie visible de votre corps. »
Roland ne réagit pas.
« Vous avez de l'argent ?»
demanda-t-il simplement.
J'ai emporté $300 en rentrant chez moi prendre ma voiture, et j'en avais 30 ou 40 sur moi. et des cartes de crédit, mais votre jeune ami m'a dit d'utiliser du liquide autant que possible, jusqu'à ce que vous continuiez seul de votre côté. Il dit qu'il y a peut-être des gens qui vous cherchent. Il les a appelés les ignobles.
Roland acquiesça. Oui, il y aurait des ignobles dehors, et après tout ce que lui et son cathète avaient fait pour contrer les plans de leur maître, ils allaient avoir deux fois plus hâte d'avoir sa tête, en flammes et au bout d'une pique de préférence, et aussi celle de Sy Tassenbaum s'ils apprenaient son existence.
« Qu'est-ce que Jake vous a dit d'autre ?» demanda Roland.
« Que je dois vous emmener à New York, si vous êtes d'accord. » Il a dit qu'il y avait une porte qui vous emmènerait dans un endroit appelé Feydag.
Il y avait autre chose?
Oui. Il a dit qu'il y avait un autre endroit où vous voudriez peut-être vous rendre avant de vous servir de la porte.
Elle lui adressa un petit regard timide de côté.
C'est le cas?
Il y réfléchit puis opina.
Et puis il a parlé au chien. On aurait dit qu'il lui donnait... « Des ordres? Des instructions ?»
Elle le regarda d'un air dubitatif.
« Ça pourrait être ça ?»
Roland pensait que oui. À cette femme, Jake ne pouvait que demander quelque chose, mais à ôter. Eh bien, ça expliquerait pourquoi le bafouilleux n'était pas resté près de la tombe, quelle que fût l'envie qu'il en avait. Ils roulèrent en silence pendant un moment. La route sur laquelle ils se trouvaient les conduisit à une autre plus fréquentée, remplie de voitures et de camions fonçant à toute allure sur plusieurs voies. Elle dut s'arrêter à un péage et donner de l'argent pour pouvoir continuer. L'agent du péage était un robot avec un panier en guise de bras. Roland pensa qu'il pourrait dormir, mais il voyait le visage de Jack dès qu'il fermait les yeux. Puis celui d'Eddie. Avec son bandage lui recouvrant inutilement le front.
« Si c'est ce qui me vient quand je ferme les yeux, » se dit-il, « à quoi ressembleront mes rêves ?»
Il rouvrit les yeux et regarda la route, tandis qu'il descendait une rampe inclinée et pavée qui les infiltra dans la circulation serrée sans la moindre interruption. Il se pencha pour regarder par la vitre de son côté. Il y avait des nuages. Los Angeles, qui défilait au-dessus d'eux dans la même direction. Il se trouvait toujours sur le sentier du rayon. 13.
Monsieur? Roland?
Elle crut qu'il somnolait les yeux ouverts. Assis dans le siège baquet passager, les mains posées sur les genoux, la main valide repliée sur la main mutilée, la dissimulant. Elle se fit la remarque qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un qui ait l'air aussi peu à sa place dans une Mercedes-Benz, ou dans quelque voiture que ce soit. Elle se dit aussi qu'elle n'avait jamais vu un homme à l'air aussi fatigué.
« Mais il n'est pas au bout du rouleau. Je pense qu'il est à 1000 lieues d'être au bout du rouleau, même s'il a l'impression du contraire. Cet animal, ôté, c'est ça ?»«
Ôté, oui. »
En entendant son nom à deux reprises, le bafouilleux leva la tête, mais ne répéta pas la syllabe comme il l'aurait fait la veille encore.
« C'est un chien ? Pas vraiment, n'est-ce pas ? C'est autre chose ?»«
Pas c'est. Il est. Et non, il n'est pas un chien. »
Irène Tassenbaum ouvrit la bouche, puis la referma. Ce qui fut difficile, car le silence en société ne lui venait pas naturellement, et qu'elle se trouvait en présence d'un homme qu'elle trouvait séduisant, malgré tout son chagrin et son épuisement. Peut-être même à cause d'eux, dans une certaine mesure. Un enfant mourant lui avait demandé d'emmener cet homme à New York et de l'aider à se rendre là où il voudrait, une fois là-bas. Il lui avait appris que son ami en savait encore moins sur New York que sur l'argent, et elle le croyait sans difficulté. Mais elle croyait aussi que cet homme était dangereux. Elle avait envie de poser des questions, mais... Et s'il y répondait ? Elle avait compris que, moins elle en savait,
plus elle aurait de chances, une fois qu'il aurait disparu, de réintégrer la vie qu'elle avait vécue jusqu'à 4 heures moins le quart de l'après-midi. De s'y fondre comme cette bretelle venait se fondre dans l'autoroute, ce serait le mieux. Elle alluma la radio et trouva une station qui passait Amazing Grace. Lorsqu'elle tourna de nouveau la tête vers son étrange compagnon, elle vit qu'il avait le regard perdu dans le ciel qui s'assombrissait et qu'il pleurait. Puis elle s'aventura à jeter un œil à ses pieds et elle y vit quelque chose de bien plus étrange, quelque chose qui retourna son cœur comme il ne l'avait plus été depuis 15 ans, lorsqu'elle avait perdu le seul et unique enfant qu'elle avait réussi à porter. L'animal, le non-chien, s'est ôté. Il pleurait, lui aussi. 14. Elle sortit de la 95 juste avant la frontière du Massachusetts et elle les enregistra dans 2 chambres jumelles, dans un palace du nom de Brise Marine. Elle n'avait pas pensé à prendre ses lunettes pour conduire, celles qu'elle appelait ses lunettes « mat cul de mouche ». « Quand je porte ces trucs, je verrai le cul d'une mouche », avait-elle coutume de dire. Et quoi qu'il en soit, elle n'aimait pas conduire de nuit. Lunettes, mat cul de mouche ou pas, conduire de nuit lui mettait les nerfs à vif, et c'était la migraine à tous les coups. Avec la migraine, elle ne leur serait d'aucune utilité ni à l'un ni à l'autre, et son Zomig était bêtement resté dans l'armoire à pharmacie, à East Sonham.
Par ailleurs, dit-elle à Roland, si cette Ted Corporation que vous cherchez se trouve dans un immeuble de bureau, vous ne pourrez pas y entrer avant lundi, de toute façon.
Ce qui était probablement inexact. C'était le genre d'homme à entrer là où il voulait. Impossible de l'en empêcher. Elle supposait que ça faisait partie de son charme, pour un certain type de femme. Néanmoins, il n'objecta rien lorsqu'elle s'arrêta au motel. Non, il n'irait pas dîner dehors avec elle, aussi chercha-t-elle un fast-food acceptable le plus proche possible. Elle rapporta de quoi grignoter de chez KFC. Ils dînèrent dans la chambre de Roland. Irène prépara une assiette pour Othé sans qu'on lui ait rien demandé. Othé ne mangea qu'un seul morceau de poulet, le tenant proprement entre ses pattes avant. Puis il alla dans la salle de bain et s'endormit sur le tapis au pied de la baignoire.
« Pourquoi appelle-t-il cet endroit Brise Marine ?» demanda Roland.
Contrairement à Othé, il goûtait un peu de tout, mais sans aucun signe de plaisir. Il mangeait comme un homme en train de travailler.
« Je ne sens pas l'odeur de l'océan. »
« Eh bien, on doit probablement pouvoir... quand le vent souffle dans le bon sens, c'est qu'il y a vraiment une tornade. C'est ce qu'on appelle une liberté poétique, Roland. »
Il hocha la tête, faisant preuve d'une compréhension inattendue, pour elle du moins.
« De jolis mensonges, » résuma-t-il.
« Oui, j'imagine. »
Elle alluma la télévision, pensant que ça le distrairait, et elle fut choquée par sa réaction, même si intérieurement elle dut bien reconnaître que ça l'amusait. Lorsqu'il lui dit qu'il ne voyait pas les images, elle ne sut pas du tout comment le prendre. Elle crut d'abord qu'il s'agissait d'une critique détournée et terriblement intellectuelle du média lui-même. Puis elle se dit ensuite qu'il parlait peut-être, de manière tout aussi détournée, de son chagrin, de son deuil. Ce n'est que lorsqu'il lui dit qu'il entendait les voix, ça oui, mais qu'il ne voyait que des lignes qui le faisaient larmoyer, qu'elle comprit qu'il lui disait littéralement la vérité. Il ne voyait pas les images à l'écran. Ni la rediffusion de Roseanne, ni la pub pour les suppositoires, ni le présentateur du journal local. Elle attendit qu'on parle de l'affaire Stephen King. On l'avait emmené par hélicoptère à l'hôpital général du Maine occidental à Lewiston, et il avait subi en début de soirée une opération qui avait apparemment sauvé sa jambe droite. État jugé stationnaire, d'autres opérations prévues, rétablissement long et incertain. Puis elle éteignit le poste.
Elle nettoya les restes de leur dîner. Il y avait tellement de déchets avec ces encas KFC, allez savoir pourquoi. Et souhaita à Rolante bonne nuit d'une voix incertaine. Ce à quoi il répondit de manière distraite, comme s'il n'était pas vraiment là, ce qui la rendit triste et nerveuse. Puis se rendit dans sa chambre juste à côté. Là, elle regarda environ une heure d'un vieux film dans lequel Yul Brynner jouait le rôle d'un robot cow-boy devenu complètement dingue, avant d'éteindre et de se rendre à la salle de bain en vue de se laver les dents. C'est alors qu'elle se rendit compte, évidemment ma grande, qu'elle avait oublié sa brosse à dents. Elle fit de son mieux avec son doigt, puis se coucha en culotte et soutien-gorge. Pas de chemise de nuit non plus. Elle resta une heure ainsi, avant de se rendre compte qu'elle guettait les bruits de l'autre côté du mur fin, comme du papier cigarette, et un bruit en particulier. La détonation du revolver qu'il avait eu la délicatesse de ne pas porter dans la chambre d'hôtel. Cette détonation, unique et fracassante, qui indiquerait qu'il avait mis fin à son chagrin de la manière la plus radicale et la plus directe. Quand elle ne parvint plus à supporter le silence de l'autre côté du mur, elle se leva, se rhabilla et sortit regarder les étoiles. Et là, assis au bord du trottoir, elle trouva Roland avec le non-chien à ses côtés. Elle songea à lui demander comment il avait pu sortir de sa chambre sans qu'elle s'en aperçoive. Les murs étaient tellement fins et elle avait écouté tellement fort. Mais elle se ravisa. Elle préféra lui demander ce qu'il faisait dehors et elle se trouva complètement prise au dépourvu, à la fois par sa réponse et par l'expression transparente de son visage, lorsqu'il leva les yeux vers elle. Elle continuait d'attendre de lui une certaine patine de civilisation, une ou deux mondanités. Mais non, sa franchise avait quelque chose de terrifiant.
« J'ai peur de dormir, » dit-il. « J'ai peur que mes amis morts viennent à moi et que les voir me tuent. »
Elle le regarda attentivement dans ses lumières mêlées. Celles provenant de sa chambre à elle et cet horrible éclat tranchant d'Halloween des néons du parking. Son cœur battait si fort qu'elle avait tout le torse qui tremblait. Pourtant, lorsqu'elle parla, sa voix paraissait plutôt calme.
« Ça vous aiderait si je dormais près de vous ?»
Il réfléchit puis hocha la tête.
« Oui, je pense que oui. »
Elle le prit par la main et ils rentrèrent dans la chambre qu'elle avait réservée pour lui. Il retira ses vêtements sans la moindre gêne apparente et elle le contempla, frappée de peur et de fascination. Les cicatrices qui zébraient et entaillaient le haut de son corps. Le pli rouge boursouflé d'une balafre au couteau sur le biceps. La zébrure laiteuse d'une brûlure sur l'autre. Les hachures blanches des coups de fouet entre et sur les omoplates. Et trois cratères profonds qui ne pouvaient être que de vieilles traces de balles. Sans compter, bien sûr, les doigts manquant à sa main droite. Elle était curieuse. Pourtant, elle n'aurait jamais osé poser la moindre question à ce sujet. Elle retira elle aussi ses vêtements, puis, après un moment d'hésitation, son soutien-gorge. Elle avait les seins qui tombaient, et sur l'un d'eux apparaissait une cicatrice aussi, celle non pas laissée par une balle, mais par l'ablation d'une tumeur mammaire. Et alors ? Elle n'avait jamais été un mannequin élite, même dans ses jeunes années. Et même dans ses jeunes années, elle ne s'était jamais considérée comme un cul et des seins ambulants. D'ailleurs, personne d'autre non plus n'avait fait cette erreur de jugement, et surtout pas son mari. Elle garda sa culotte, cependant. Si elle s'était épilée correctement le maillot, peut-être qu'elle l'aurait retiré. Si elle avait su... En se levant ce matin, qu'elle allait se retrouver au lit avec un inconnu dans un motel de seconde zone, alors qu'un animal non identifié somnolait sur le tapis de la salle de bain. Et pour le coup, elle aurait embarqué sa brosse à dents et un tube de Colgate aussi.
Lorsqu'il mit ses bras autour d'elle, elle se raidit avec un petit soupir de choc, puis se détendit, mais très lentement. Il appuya ses hanches contre ses fesses et elle sentit le poids considérable de son matériel. Mais apparemment, il ne cherchait que du réconfort. Il avait le pénis mou. Il lui attrapa le sein gauche et fit courir son pouce dans le creux laissé par l'opération.
« Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il.
« Eh bien, »
fit-elle, et sa voix n'était plus calme du tout.
« Si on en croit mon médecin, dans les 5 ans, ce serait devenu un cancer. Alors ils l'ont découpé avant que ça... Je ne sais pas exactement. Les métastases, c'est plus tard, quand il y en a. »«
Avant que ça fleurisse ?» suggéra-t-il.
« Oui, c'est ça. C'est bien. »
À présent, elle avait le téton dur comme la pierre, et il devait le sentir.
« Oh, c'était tellement étrange. Pourquoi votre cœur bat-il si fort? Est-ce que je vous fais peur ?»«
Je... Oui. »«
N'ayez pas peur, » dit-il. « La tuerie est terminée. »
Il marqua une longue pause dans le noir. Ils entendaient le bourdonnement affaibli des voitures sur la bretelle.
« Pour le moment, »
ajouta-t-il.
« Oh !»
dit-elle d'une petite voix.
« Bien. »
Sa main à lui sur son sein, son souffle dans son cou. Au bout d'un temps interminable qui pouvait aussi bien avoir duré 1 heure que 5 minutes, la respiration de l'homme ralentit, et elle sut qu'il s'était endormi. Elle était à la fois contente et déçue. Quelques minutes plus tard, elle s'endormit elle-même, et ce fut sa meilleure nuit depuis longtemps. S'il eut des cauchemars avec ses amis disparus, il ne la dérangea pas. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, il était 8 heures, et il se tenait nu à la fenêtre, scrutant dehors par une fente dans le rideau qu'il retenait du doigt.
« Vous avez dormi ? »
demanda-t-elle.
« Un peu. » « On peut repartir ?»
15. Ils auraient pu atteindre Manhattan autour de 15 heures, et l'entrée en ville aurait été beaucoup plus facile un dimanche après-midi qu'un lundi matin en pleine heure de pointe. Mais dans New York, les chambres d'hôtel étaient chères, et même en n'en partageant qu'une seule, il faudrait avoir recours aux cartes de crédit. Ils passèrent la nuit dans un motel 6 à Harwich, dans le Connecticut. Elle ne prit qu'une chambre, et cette nuit-là, il lui fit l'amour. Non pas exactement parce qu'il le voulait, sentit-elle, mais parce qu'il comprenait que c'était ce qu'elle voulait, elle. Ce dont elle avait besoin, peut-être. Ce fut extraordinaire. Bien qu'elle eût été bien incapable de dire précisément pourquoi. Malgré le contact de ses cicatrices sous ses doigts, rugueuses pour certaines, lisses pour d'autres, elle eut la sensation de faire l'amour à un rêve. Et cette nuit-là, elle rêva bel et bien, d'un champ rempli de roses, avec une immense tour en pierre noire ardoise tout au bout. À mi-hauteur, des lampes rouges scintillaient, sauf qu'elle avait l'impression qu'il ne s'agissait pas de lampes du tout,
mes dieux, des yeux terribles.
Elle entendit le chant de nombreuses voix, de milliers de voix, et comprit que certaines étaient les voix de ses amis à lui, de ses amis perdus. Elle se réveilla avec des larmes sur les joues et un sentiment de deuil, alors même qu'il était encore allongé à ses côtés. Après aujourd'hui, elle ne le verrait plus, et ça valait mieux. Pourtant, elle aurait donné tout ce qu'elle avait pour qu'il lui refasse l'amour une seule fois, même si elle mesurait bien que ce n'était pas vraiment à elle qu'il avait fait l'amour. Même quand il était venu en elle, ses pensées étaient au loin, avec ses voix perdues.